Bien, bonjour. Merci de nous avoir rejoints par cette grise après-midi de mai. Alors, la séance d'aujourd'hui sur l'édition de corpus numérique est à la fois la séance de clôture du séminaire 19e de Paris 3 et de l'ex-Paris 4, et c'est une séance du groupe Baudelaire. Alors, le groupe Baudelaire, vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, il n'a que quelques mois d'existence. Il a été fondé au début de l'année à l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes. Nous remercions Paolo Diorio, qui dirige cet institut, d'en avoir rendu possible la création. L'un des objectifs de ce groupe, c'est de promouvoir et de fédérer les initiatives dans la perspective des commémorations du bicentenaire de Baudelaire en 2021. C'est aussi de livrer, si possible en 2021, précisément, une édition numérique de la correspondance de Baudelaire, dont il n'existe pas actuellement d'édition complète. Ce sont nos premières expériences dans l'édition numérique de la correspondance de Baudelaire qui nous ont donné l'idée de la table ronde d'aujourd'hui. Nous allons tenter de faire le point par des études de cas sur les perspectives que peuvent ouvrir les ressources numériques dans le cadre d'une édition scientifique, sur les questions nombreuses, sur les difficultés que soulève ce type de travail. Alors, avant de donner un aperçu du projet d'édition de la correspondance de Baudelaire, nous avons souhaité donner la parole à des responsables de projets numériques bien plus avancés que le nôtre et qui nous servent en quelque sorte de modèle. Paolo Diorio, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de Nietzsche et maître d'œuvre de l'édition de référence du corpus nietzschéen. Jean-Sébastien Bach, ingénieur d'études à l'ITEM et responsable de l'édition numérique de la correspondance de Zola. Voilà, je donne tout de suite la parole à Paolo Diorio.
Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour avoir l'idée d'organiser cette journée autour des corpus numériques, donc hétérogènes, mais pas beaucoup. Finalement, nous sommes dans le 19e, hein, entre la philosophie et la littérature. Comme tu disais tout à l'heure, nous travaillons tous les deux dans cet institut, qui est un institut de textes et manuscrits modernes, dont nous avons fêté les cinquantenaires à l'automne dernier. L'ITEM est dans le jargon administratif une unité mixte des recherches et des enseignements, c'est-à-dire qui met ensemble des chercheurs du CNRS et des enseignants-chercheurs de l'ENS, de l'École normale supérieure, et qui dispose aussi d'un ensemble des chercheurs associés, d'un réseau de chercheurs associés dans d'autres universités en France et à l'étranger, qui partagent une méthode, la méthode de génétique, ce que nous appelons la critique génétique, qui est une méthode d'interprétation des textes, et aussi une théorie littéraire, qui a commencé justement dans les domaines de la littérature, mais qui est en train de s'étendre à la philosophie, à la linguistique, aux arts plastiques aussi. Et l'idée est toute simple, nous voulons chercher à comprendre ce que les grands auteurs ont, la manière dans laquelle les grands auteurs sont arrivés à la publication de leurs œuvres, en étudiant les documents, en étudiant les traces écrites qu'ils ont laissées dans leurs manuscrits, dans leurs carnets, et donc. Et la critique génétique est à la fois une méthode d'édition et une méthode d'interprétation. Il ne faut pas se confondre. On peut écrire des essais de critique génétique sans disposer d'une édition génétique, tout simplement en consultant les originaux, ou alors on peut établir une édition génétique sans donner forcément une interprétation génétique qui est laissée à d'autres chercheurs. L'ITEM est divisé en plusieurs équipes, et chaque équipe parfois a des groupes aussi de recherche dans son sein, Et donc, en littérature, comme je vous disais, le thème est surtout en laboratoire de littérature, mais aussi en philosophie, en art visuel, en linguistique. Et chaque équipe s'occupe justement d'un certain corpus ou d'une période ou d'un thème aussi. Pour ce qui me concerne, je suis philosophe de formation et je suis responsable aussi de l'équipe Nietzsche, l'équipe Nietzsche Son Temps. Et c'est dans ce cadre que je voudrais vous parler de l'édition numérique de l'œuvre de Nietzsche que nous avons initiée avec mon équipe il y a quelques temps déjà. Et je voudrais vous présenter aussi une avant-première de l'édition génétique numérique d'un ouvrage de Friedrich Nietzsche, publié en 1880, sous le titre « Der Wanderer und sein Schatten, le voyageur et son ombre ». Et en conclusion, je vous donnerai un aperçu du changement que la méthode génétique pourrait apporter dans l'interprétation des textes philosophiques. Là, vous voyez donc le frontispice de l'ouvrage de Nietzsche dont je vous parle. L'édition numérique de l'œuvre de Nietzsche est publiée chez Nietzsche Source. Qu'est-ce que Nietzsche Source? Nietzsche Source est un site web savant qui publie des matériaux scientifiques concernant l'œuvre de Nietzsche. Une sorte de maison d'édition numérique spécialisée dans des publications Nietzsche. Bien sûr, il semble lucratif, hein, donc tout est disponible rapidement et pour tous. Trois publications sont actuellement disponibles, deux éditions, l'édition en facsimilé et l'édition critique des références, ainsi qu'une revue internationale et multilingue d'études nietzschéennes. D'autres publications sont prévues. Et je vous donne ici un aperçu de différentes parties prévues de Nietzsche Source. Après l'édition critique, l'édition en facsimilé et la revue, les travaux continueront avec la publication de tous les livres de la bibliothèque de Nietzsche, que nous sommes en train de faire exactement en ce moment, dans le cadre d'un projet franco-allemand ANR-DFG. La bibliographie, n'est pour l'instant qu'un projet. Et par contre, l'édition génétique, dont nous allons finalement parler dans un instant, est en préparation. Comme vous le voyez, il s'agit à chaque fois des parties indépendantes, mais il existe également un espace de Nietzsche Source où les différentes parties sont mises en rapport les unes avec les autres. Cette partie s'appelle Contexta, du latin, des choses qui sont connectées, et elle contient, comme son nom l'a dit, la manière de faire parler les différentes parties de Nietzsche Source. On le verra tout à l'heure. Donc, je commence par vous donner un aperçu rapide des publications actuellement disponibles, aussi dans le but de les distinguer par rapport à l'édition génétique dont je vais vous parler par la suite et qui n'est pas disponible et que vous ne pouvez pas pour l'instant consulter en ligne. L'édition en facsimilé, l'édition numérique en facsimilé, la Digital Facsimile Gesamtausgabe, est l'édition numérique complète de l'œuvre de Nietzsche qui publie, comme son nom l'est dit, la totalité du corpus nietzschéen. Les premières éditions de ses œuvres, ses manuscrits, sa correspondance, ainsi que les documents biographiques le concernant. Pour l'instant, nous avons publié environ 10 000 pages de facsimilé. La navigation est très simple, presque enfantine. Voyons si je peux vous donner un aperçu. Voilà. Et vous pouvez bien sûr utiliser aussi votre ordinateur pour naviguer. Pour l'instant, vous pouvez choisir que les manuscrits qui sont divisés par typologie. Vous avez les carnets, les cahiers, qui sont beaucoup, ça met un moment à charger. Vous voyez, tous les cahiers de Nietzsche avec un descriptif. J'ai oublié de vous dire, le site est multilingue, pour l'instant en quatre langues. Vous pouvez changer en allemand, en anglais, en français ou en italien. Et ça va changer les menus de navigation et aussi d'autres, les descriptifs. Par exemple, dans l'édition en facsimilé, vous pouvez avoir un descriptif dans une autre langue, si vous le souhaitez. Nous avons même les compositions musicales de Nietzsche. Et je vous disais, la navigation est très simple. Dans cette partie de Nietzsche Source, l'idée est que tout le monde puisse facilement accéder au manuscrit. Voilà, je suis en train maintenant de feuilleter ce qu'on appelle le panorama, un aperçu d'un cahier avec les miniatures. Et puis, vous pouvez choisir, par exemple, une page. Une page, et voilà, continuer à naviguer ici. Et utiliser les fonctions des zooms, qui sont assez puissantes parce que nous avons numérisé à numérisation la plus élevée avec une résolution assez élevée pour les standards d'aujourd'hui, 400 dpi. Et comme vous voyez, nous avons numérisé la double page. Plus exactement, nous devons numériser les documents dans l'état où ils sont. Parfois, on numérise dans les pages par page, mais nous avons voulu justement faire une édition en facsimilé, donc préserver l'aspect du manuscrit. Si le manuscrit est composé d'une double page, comme dans ce cas, nous numérisons la double page, qui est souvent un espace d'écriture pour un auteur, qui donc traverse les deux pages. Mais pour davantage de précision, si nous voulons citer une page déterminée, par exemple la page 4, nous pouvons aussi artificiellement, nous avons coupé artificiellement la page 4 pour pouvoir s'y référer avec plus de précision quand nous voulons citer exactement cette page. Et à ces propos, c'est une des caractéristiques de cette édition, la possibilité de citer l'édition, car les URL, c'est-à-dire les adresses Internet, peuvent être utilisées comme des références bibliographiques, parce qu'elles sont simples, stables et sémantiques, dans le sens où elles correspondent aux abréviations normalement utilisées par les chercheurs. Vous pouvez donc citer dans un article publié en ligne ou dans une revue imprimée, vous pouvez citer exactement cette page en indiquant DFGA, Digital Facsimile Gesamtausgabe, qui est l'acronyme de l'édition, suivi par N26. N26 est un sigle qui parle aux spécialistes de Nietzsche, parce que c'est le nom de ce cahier qui a été établi par Hans-Joachim Metter en 1932, quand il a fait l'inventaire du corpus nietzschien, des archives de Nietzsche. Et donc, un bon spécialiste de Nietzsche connaît tout de suite, comprend tout de suite qu'est-ce que cela signifie. Virgule 4, ça veut dire tout simplement la page 4 de ce cahier. Donc, vous pouvez les citer et le lecteur de vos articles pourra ensuite ajouter nietzschesource.org au début. Et voilà. Et il pourra aller directement, s'il met cela dans le navigateur, il ira directement à cette page. Ou alors, vous pouvez aussi mettre ce sigle-là, même si ce n'est pas, comment dire, si correct comme méthode, mais si vous mettez cette sigle dans Google, vous trouvez quand même la page 4 de ce cahier. Donc, je vous disais que nous avons publié à ce jour 10 000 pages et peut-être plus de manuscrits. J'ajoute que nous continuons ce travail dans le cadre d'un projet DFPA, qui est l'agence qui finance la recherche en Allemagne, en collaboration avec les archives Goethe, Schiller et Weimar, où sont conservés les originaux, en vue de la publication intégrale de tous les papiers de Nietzsche. Le fonds Nietzsche comprend environ 67 000 pages, entre manuscrits, œuvres, les lettres, les documents biographiques. Ces documents seront numérisés en deux phases. La première phase a concerné les manuscrits et les premières éditions des œuvres, et la deuxième phase comprendra les lettres et les documents biographiques. Je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'une simple numérisation du fonds Nietzsche à visée patrimoniale avec mise à disposition, comme on dit, d'une galerie d'images sur Internet. Les mots ont leur sens. Il s'agit d'une véritable édition en facsimilé qui comprend donc une numérisation en haute qualité avec collation des originaux, c'est-à-dire que les archives Nietzsche, ils ont collationné chaque page du manuscrit avec chaque fichier des sons facsimilés numériques, et au cas où il y avait des différences ou des problèmes, ils les ont fait numériser à nouveau. Un classement à suite, nous avons établi un classement numérique avec les sigles standards que je vous ai montrés tout à l'heure. Ensuite, une description matérielle soignée de chaque cahier que vous verrez dans un instant, et puis des concordances entre les pages de manuscrits et les lieux textuels correspondants dans l'édition critique actuellement disponible dans Nietzsche Source, l'édition des références textuelles. Donc, je voulais vous faire voir peut-être déjà la description matérielle, voilà, de ce carnet. Et vous vous souvenez, vous étiez là, vous étiez en train de consulter un carnet. À partir de n'importe quel carnet, vous pouvez cliquer sur Contextin, c'est-à-dire la partie de Nietzsche Source qui met en relation les différentes parties de Nietzsche Source, et vous arrivez à une description archivistique. Alors, la description courte pour la navigation, celle consacrée à tout le monde, était en français ou dans d'autres langues que vous avez choisies. La description archivistique poussée, qui considère aussi tous les cahiers dont il a composé les manuscrits, etc., est écrite en allemand, parce que bien sûr c'est la langue des références pour les études Nietzschéennes. Et vous avez aussi les descriptions historiques qui ont été données de ce cahier par d'autres éditeurs ou dans le cadre des archives de Schiller de Weimar, ce qui vous permet de confronter les différentes éditions et de voir s'il y a eu des différences ou des changements dans les fonds de Nietzsche. Mais pourquoi publions-nous cette édition en facsimilé? Parce que ces documents représentent les sources primaires pour l'étude de la pensée de Nietzsche. En effet, comme vous le savez, les éditions critiques peuvent être erronées, et pour s'en apercevoir, il faut remonter au manuscrit. Par exemple, vous connaissez tous, vous connaissez tous ces célèbres ouvrages de Nietzsche qui est intitulé La volonté des puissances. Eh bien, ce n'est pas un ouvrage de Nietzsche. Ça n'existe, la volonté des puissances n'existe pas. Nietzsche avait abandonné ses projets et c'est sa sœur que vous voyez dans cette photo qui a assemblé le livre à partir des notes, des simples notes que les philosophes avaient écrites dans ses cahiers et écartées. Mais puisque c'était elle qui gardait les manuscrits dans les coffres-forts du Nietzsche Archive que vous voyez là sur la droite de cette image, personne ne pouvait vérifier. Ce n'est que dans les années 70 que l'édition critique des références publiée par Giorgio Colli et Mazzino Montinari a pu définitivement rectifier cette erreur en s'effondrant pour la première fois sur les manuscrits qui, entre-temps, étaient devenus accessibles. Et donc, même si les éditeurs continuent de la republier, maintenant nous avons démontré depuis longtemps que la volonté des puissances n'est pas un ouvrage de Nietzsche, c'est un faux, c'est une compilation abusive faite par une sœur abusive, comme cela a été nommé parfois par Richard Ross, un spécialiste de Nietzsche français. Et voilà. Et donc nous avons également publié dans Nietzsche Source la version numérique de l'édition critique de référence, l'édition Colli-Montinari. Notre édition se base sur l'édition éditée par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, mais elle est constamment mise à jour et représente donc les derniers états de la recherche. En effet, l'édition Colli-Montinari, comme toute édition critique, souffre des problèmes de faute d'impression ou de véritables fautes de transcription découvertes par les chercheurs après publication et publiées, dans le cas de l'édition Colli-Montinari, dans de longues listes des Berichtigungen, c'est-à-dire des errata. Quelques exemples. Pathétique, au lieu de synthétique, synthétique. Körper, le corps, au lieu de Küchen, la cuisine, c'est pas exactement la même chose. Willen, volonté, au lieu de wollen, vouloir, etc. Environ 6600 fautes ont été découvertes à ce jour. Comme vous le voyez, les errata concernant un certain tome se trouvent souvent dans un autre tome. Et pour des raisons commerciales, la maison d'édition de Goethe n'a pas souhaité réimprimer les textes des différents tomes de l'édition en corrigeant les errata, justement. Cela est particulièrement grave dans le cas des éditions de poche utilisées par les étudiants et dont les textes n'ont pas été actualisés et qui ne comprennent même pas des listes de rata. Donc, si vous êtes un étudiant, vous achetez l'édition de poche, vous trouvez les 6600 erreurs contenues dans l'édition. Par contre, l'édition critique que nous avons publiée dans Nietzsche Source a intégré toutes les 6600 corrections connues dans les textes de Nietzsche et elle est constamment mise à jour. C'est donc les textes les plus fiables actuellement disponibles. Et c'est intéressant parce que parfois on dit que les éditions électroniques sont des qualités inférieures par rapport aux éditions imprimées, et souvent malheureusement c'est vrai. Dans notre cas, c'est le contraire qui est vrai. L'édition électronique est philologiquement plus précise et soignée que l'édition imprimée. Car dans notre édition, les corrections sont indiquées en texte surligné avec l'indication de la version erronée imprimée. Donc vous voyez, vous tombez sur un texte qui est surligné et vous cliquez là-dessus et vous avez accès à la version errata contenue dans la édition imprimée et puis dans la version rectifiée qui est directement intégrée dans les textes. Ça veut dire que, vous savez, les coquilles, c'est toujours dérangeant, enfin ennuyeux, mais dans les cas d'une édition électronique, c'est vraiment très grave, parce que quand vous cherchez un mot, s'il est mal orthographié, vous ne le trouvez pas. Et donc, du coup, une des fonctions importantes d'une édition électronique, la recherche des mots, souffre. Donc, le premier avantage, vous avez un texte fiable et qui représente l'état de l'art. Deuxième avantage, bien sûr, la possibilité d'effectuer des recherches textuelles complexes dans des textes en utilisant des critères multiples. Là, j'ai cherché Paris dans la période 80-89, uniquement dans les fragments posthumes et dans les lettres dont Nietzsche est expéditeur et le destinataire est Paul Rey. Voyez. Mais surtout, troisième avantage, l'édition critique utilise elle aussi les mêmes principes des adresses Internet simples, stables et qui sont conçues comme des véritables références bibliographiques qui correspondent en plus aux abréviations normalement utilisées par les spécialistes de Nietzsche. Tout spécialiste de Nietzsche sait que WB indique les premiers WB-1 indique les premiers paragraphes de Richard Wagner in Bayreuth, et donc vous pouvez les mettre comme adresse internet et obtenir immédiatement le premier paragraphe de cette œuvre de Nietzsche. Et vous pouvez citer de la même manière. Et de la même manière, en cliquant sur le lien, trouvez immédiatement le texte du premier paragraphe de cette considération inactuelle de Nietzsche. Troisième publication de Nietzsche Source, Studia Nietzscheana. Studia Nietzscheana, c'est une nouvelle revue internationale et multilingue d'études nietzschéennes qui a été lancée en 2014. Il faut dire que maintenant elle souffre un peu parce que nous avons beaucoup d'articles qui doivent être publiés et qui attendent. Mais je vous donne quand même un exemple. Ça, c'est c'est un article publié dans cette revue. Bien sûr, vous l'avez deviné, dans ce cas aussi, vous pouvez citer une partie de cet article à partir de l'URL qui est composée par les noms de l'auteur, la date de publication, virgule 7, qui représente le 7e paragraphe de cet article. Il n'y a pas de page sur Internet, donc on utilise le paragraphe. Et vous pouvez citer aussi les notes, si vous voulez, en ajoutant, je ne l'ai pas prévu, mais vous pouvez citer la troisième note de l'article en ajoutant N3 à la fin de l'URL. Bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, Contexta, nous l'avons vu. Oui, je pourrais vous faire voir une autre fonction des Contexta qui est celle de mettre en rapport l'édition en facsimilé avec la partie correspondante de l'édition critique. Vous voyez, nous étions là, nous étions en train de feuilleter ces cahiers. Puis, comme bon, l'écriture de Nietzsche n'est pas formidable, en plus, Normalement, il écrit Van der Zegan dans un boutique allemand très difficile à transcrire. Nous pouvons cliquer sur Contexta et vous avez la transcription qui a été donnée de cette page dans l'édition critique. Il y a aussi une autre possibilité. Voyons si je trouve. Il y a une page. Nous avons cela, voilà. Vous voyez, il y a plusieurs onglets qui indiquent les autres parties de Nietzsche Source qui se réfèrent à ces manuscrits en particulier. Et vous avez donc l'édition critique, mais vous avez aussi Studia Nietzschean. Parce qu'il y a un chercheur qui a cité dans un article exactement cette page du manuscrit. Et donc, vous pouvez directement lire ce passage de cet article qui concerne exactement cette page du manuscrit. Vous voyez, quand vous rentrez dans une bibliothèque, c'est facile relativement d'avoir des indications bibliographiques, mais aucune bibliothèque vous dira quels sont les auteurs qui ont commenté une page, un aphorisme d'un ouvrage de Nietzsche. Et là, il y a un véritable plus de cette édition électronique, parce que ça vous permet de dire qui a commenté cet aphorisme. Et si demain vous devez faire une conférence, vous êtes en train de prendre l'avion, quand même vous imprimez la liste des articles qui commentent l'article, vous partez et vous avez davantage de temps pour réfléchir, au lieu de chercher à droite et à gauche qui pourrait avoir bien avoir dit quelque chose sur cette page de mon auteur préféré. Voilà. Une toute dernière fonction de... Ah bien sûr, si je suis là, par contre, je suis en train de lire l'article, je peux aller au texte correspondant. Le texte correspondant me dit, tiens, là, il y a un article qui commente ce texte de Nietzsche. Et voilà, je retrouve le texte et je retrouve aussi la page du manuscrit. On fait les tours à l'inverse. Bien, toute dernière chose concernant l'édition facsimilée est la chronologie des manuscrits. Nous avons une frise chronologique, ce n'est pas encore une édition génétique, mais c'est une frise chronologique qui nous permet de savoir quelles sont les périodes de rédaction de chaque manuscrit. Et donc, en utilisant un peu les zooms, je pourrais voir quels sont les manuscrits que Nietzsche avait entre les mains. Par exemple, là, je suis en juin 78, je sais que Nietzsche disposait de ces cahiers-là. C'était sur son bureau. Autant qu'on a pu, bien sûr, établir la chronologie des manuscrits, qui n'est pas très simple à établir, mais nous avons quand même ce que nous savons, nous pouvons les représenter dans cette frise temporelle. Résultat, ces éditions sont utilisées par des chercheurs du monde entier. Vous voyez là, ce sont les statistiques d'accès. Alors, davantage en Allemagne, c'est plus foncé, aux États-Unis, mais par exemple au Brésil, et un peu partout, pas en Irlande, bon, quand même, en Afrique aussi. Et nous avons plus de 4600 lecteurs par mois. Ça, c'est les mois de mars 2019. Sur l'année 2018, nos lecteurs ont utilisé Nietzsche Source plus de 120 000 fois en consultant plus d'un million et demi de pages. Et nous pouvons donc affirmer que Nietzsche Source est désormais un outil de travail utilisé par les chercheurs du monde entier. Bien sûr, ce ne sont pas des statistiques foudroyantes pour un site web, pas des nouvelles, etc., mais pour un site web scientifique écrit en allemand qui concerne l'œuvre d'un philosophe, ce sont quand même, je pense, des chiffres intéressants. Bien, arrêtons-nous un instant. Vous avez déjà compris que l'édition facsimilée, l'édition critique, Contexta, qui met côté à côté manuscrits et transcriptions, la revue Studia Nietzschean, qui permet de publier des études critiques, hein, ses référents directement au texte et aux manuscrits, sont déjà des instruments très efficaces pour pratiquer la critique génétique. J'ai longuement travaillé à ces publications et je n'ai pas encore fini de travailler parce qu'à mon avis, cela est indispensable pour encourager la réalisation d'études génétiques sur l'œuvre de Nietzsche. Nietzsche nous a laissé un très grand nombre de manuscrits. Ces manuscrits sont difficiles à lire Si en plus les chercheurs doivent se rendre aux archives de Weimar pour les consulter et passer des longues jours, des semaines, des mois, vous comprenez que très peu de jeunes chercheurs, ou même des chercheurs moins jeunes, auraient les ressources financières et les temps de se consacrer à des études génétiques. Avec les instruments déjà publiés dans Nature Source, par contre, on peut déjà commencer à s'engager plus aisément dans des études des critiques génétiques sur ces corpus. Alors maintenant, nous faisons un pas en avant et voyons comment pourrait se présenter une véritable édition génétique numérique. Les croisements entre informatique et sciences humaines mobilisent depuis longtemps les chercheurs de l'ITEP, vous l'imaginez. Depuis les études, les maquettes, les premiers hypertextes, comme on disait à l'époque, réalisés notamment par Jean-Louis Lebrun et Daniel Ferrer dans les années 80, notre institut a été l'un des précurseurs de l'utilisation des technologies numériques pour les études littéraires. Le fait est que l'étude et la publication des manuscrits d'écrivains excède les possibilités de l'imprimé. L'ampleur des corpus, 67 000 pages, par exemple dans le cas de Nietzsche, mais Flaubert, c'est un corpus, leur fragilité, les difficultés d'accès et surtout la nécessité de décrire et démontrer des processus dynamiques poussent naturellement les chercheurs qui travaillent en critique génétique à se tourner vers les possibilités offertes par les supports électroniques et les réseaux informatiques. La plupart des spécialistes aujourd'hui s'accordent à reconnaître que seuls les supports et les technologies numériques peuvent permettre la réalisation d'une véritable édition génétique et garantir sa diffusion auprès du public. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas plus utiliser le papier, nous le faisons à la LITEP, nous aimons beaucoup les livres, les beaux livres, mais qui permettent de donner des aperçus limités sur une partie du corpus particulièrement intéressante, alors que ici nous avons la possibilité, si je veux dire dans les éditions électroniques, nous avons la possibilité de penser à l'exhaustivité et de la réaliser, non seulement de la penser. Mais qu'est-ce qu'une édition génétique et en quoi elle se différencie par rapport à une édition critique traditionnelle? À mon sens, dans les cas d'un philosophe, l'édition génétique doit publier les œuvres et les corpus manuscrits de manière à représenter la genèse de ses projets d'écriture et à permettre la reconstruction du développement de sa pensée. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour préciser que quand je parle de pensée, je n'entends pas les pensées qui nous viennent dans la tête, mais uniquement les pensées écrites sur le papier. Nietzsche pouvait bien parler des pensées qu'il avait, lui, dans sa tête à lui, et il pouvait les confronter avec les pensées couchées sous les papiers et déplorer la distance qui existait entre les deux, comme il est fait, par exemple, dans un morceau de bravoure, dans le dernier aphorisme de « Par-delà le bien et le mal ». Mais nous, en tant qu'interprètes de Nietzsche, en tant que généticiens, nous n'avons à notre disposition que les pensées couchées sur les papiers. Et cela nous suffit largement, d'ailleurs. Car ce que nous voulons comprendre n'est pas les rapports entre les pensées dans la tête et les pensées sur le papier, mais les rapports des pensées sur les papiers entre elles. Leurs différentes versions, leur développement, leur logique littéraire ou philosophique. Donc, quand je parle de reconstruire le mouvement de la pensée, je n'entends jamais la pensée située dans la tête de l'auteur, mais toujours la pensée en tant que note écrite à caractère conceptuel, comme les pensées de Pascal, par exemple. C'est par hasard si nous avons illustré les dépliants et les affiches du colloque du cinquantenaire du thème dont je vous parlais tout à l'heure, avec un manuscrit des pensées de Pascal. C'est cela la pensée qui nous intéresse dans les cas de la génétique philosophique. Ce sont ces notes à caractère conceptuel et qui peuvent être étudiées en tant que documents accessibles dans les archives des philosophes. Après, si quelqu'un a l'ambition de deviner ce que les philosophes ont pensé dans leur cerveau ou de faire des études de cognitivistes, comme c'est très à la mode aujourd'hui, de reconstruire scientifiquement ce qui s'est passé dans la tête de Nietzsche, pourquoi pas? Mais cela n'est pas l'objectif de la génétique philosophique, ni de la critique génétique en général. Mais revenons à l'édition génétique. Combien de temps j'ai encore? Ça va. Mais revenons à l'édition génétique, donc je vous disais, fermons cette parenthèse, mais qui est nécessaire, je pense. Parce que parfois il y a des malentendus. Donc pour expliquer les différences entre l'édition génétique et une édition critique, la chose la meilleure à faire est se rendre à Saint-Moritz sous les traces de notre philosophe. Le 2 mai 1979, Nietzsche renonce définitivement pour des raisons de santé à sa chaire de philologie classique à l'Université de Bâle et commence une vie de penseur solitaire. Le 21 juin, il arrive à Saint-Moritz, à la Haute Engadine, et il se sent comme dans la terre promise, des forêts, des lacs, les plus beaux chemins pour mes promenades. Voici les choses qui me font aimer ces lieux. À cet été passé à Saint-Moritz, Nietzsche écrit son ouvrage, l'ouvrage dont vous parlez, donc Les Voyageurs et son ombre, un ouvrage composé de 350 aphorismes, dont vous voyez ici le frontispice. La genèse du titre nous renseigne déjà sur les modalités de composition de cet ouvrage. Comme vous le voyez, les premiers titres que Nietzsche avait choisis pour ce livre étaient « Saint-Moritzer Gedankengang ». Or, « Gedankengang », sentirait, signifie « raisonnement, cheminement de la pensée ». En y ajoutant un tiret, Nietzsche fait ressortir les deux termes qui composent ces mots « Gedanken », pensée, et « Gang », schéma, et fait ainsi allusion à des schémas de la pensée, à des cours de pensée qu'il avait rencontrés lors de ses promenades de Saint-Moritz. Il le dit dans une lettre à son ami Peter Gast, mis à part quelques lignes, tout a été conçu en chemin et ébauché au crayon dans 6 calepins. La transcription m'était presque à chaque fois pénible. J'ai dû laisser tomber une vingtaine de longs raisonnements tout à fait essentiels, hélas, parce que je ne trouvais pas le temps pour les extraire de mes horribles griffonnages. Toute la genèse du voyageur se déroule donc sur 6 mois et 6 étapes. Tous les matins et pendant l'après-midi, les philosophes se promènent en plein air, un carnet dans la poche, et ils s'abandonnent à ses réflexions. Vous voyez là, ce sont les carnets de poche de Nietzsche. Le soir, dans sa petite chambre louée chez l'habitant, il recopie ses pensées dans 2 cahiers et ne se prive pas, bien sûr, d'ajouter des réflexions, d'en supprimer d'autres, de développer certaines idées, de sorte que cette copie honnête, au lieu d'une simple transcription, elle est plus souvent une véritable transformation du premier gène. À la fin de l'été, Nietzsche envoie 2 cahiers et une vingtaine de feuillets volants concernant sa transcription à son ami Peter Gast, en les priant d'en tirer un manuscrit pour l'impression. À partir du 30 septembre, dans la maison familiale à Naumbourg, Nietzsche procède alors à une autre étape de l'élaboration du texte définitif. Il découpe les aphorismes du manuscrit de Gast et les dispose dans un ordre qui sera celui du texte imprimé. Donc nous n'avons plus les cahiers de Gast parce que Nietzsche les a coupés. D'accord, nous avons ce petit feuillet. C'est à ce moment-là que les philosophes ajoutent de sa propre main les titres des aphorismes. Il lui arrive également d'échanger, même à ce stade, les textes d'un tel ou de tel autre aphorisme, doté des réflexions et d'en ajouter d'autres, etc. Parfois, il ajoute des paperoles, ce qu'on appelle paperoles dans la philologie proustienne. Donc là, vous avez un exemple. Donc, l'étude de la genèse, d'ailleurs, dans ce cas, nous confirme que les aphorismes de Nietzsche ne sont point jetés par hasard l'un à côté de l'autre, comme j'entends parfois par des soi-disant spécialistes de Nietzsche, mais au contraire, soigneusement agencés pour former un ensemble bien structuré. Le 18 octobre à Leipzig, Nietzsche remet ses curieux manuscrits, faits de billets découpés, entre les mains de son éditeur Ernst Schmeitzner. Dans l'atelier de l'éditeur, les billets sont collés sur des grandes feuilles de papier qui sont retournées à l'auteur par la poste, accompagnées des épreuves d'impression. Vous voyez les retours de ces feuillets, une folio, nous dit qu'effectivement ça s'est passé dans l'atelier de l'éditeur et non pas dans l'atelier de l'écrivain. Ce sont des feuillets de comptabilité, Zollhaben, ce sont ces droits à voir, non ? Ce sont donc des papiers de comptabilité qui s'est trouvés dans l'atelier de l'éditeur. Fin octobre, début novembre, Nietzsche et Gast corrigent les épreuves du volume, vous avez là les épreuves corrigées, qui paraît finalement à la mi-décembre. Or, la presque totalité du dossier génétique du voyageur est conservée aujourd'hui aux archives Goethe-Schiller de Weimar et a été soigneusement utilisée pour la publication de l'édition critique. L'édition publiée par Giorgio Colli et Massimo Montinari, dans ses 4 volumes, est excellente. L'établissement du texte est einwandfrei, comme disent les Allemands, irréprochable. L'appareil critique indique pour chaque aphorisme les principales variantes par rapport aux premières et gauches. Les références implicites ou explicites à d'autres textes de Nietzsche ou d'autres auteurs. Et puis, il fournit des informations sur la vie de Nietzsche dans la période des compositions de cet ouvrage, sur la chronologie des manuscrits, sur la composition de l'ouvrage, et termine avec une description page par page du contenu des manuscrits, qui n'a rien ajouté à cette magnifique édition. Sauf qu'il est possible d'imaginer de publier ces documents dans une autre forme et en suivant une autre logique, celle d'une édition génétique au lieu d'une édition critique. Mais donc, revenons à notre question. En quoi l'édition génétique diffère de l'édition critique? En quoi elle nous permet de mieux saisir la genèse de l'œuvre, de mieux saisir les parcours de l'écriture et les parcours de la pensée du voyageur? À mon avis, 3 caractéristiques distinguent notre édition génétique d'une édition critique ou diplomatique traditionnelle. L'ordonnancement des différents types de documents, alors que l'édition critique publie selon la typologie du document, l'édition génétique, nous les verrons, utilise la notion des dossiers génétiques, la reproduction du texte, les éditions critiques établissent les textes, les éditions génétiques transcrivent l'ensemble des témoins génétiques. Finalement, les rapports entre unités textuelles, alors que les éditions critiques disposent les unités textuelles dans une succession chronologique, l'édition génétique utilise la notion des parcours génétiques. Bien. Commençons par les dossiers génétiques. Qu'est-ce qu'un dossier génétique? Je vous ai déjà dit, les éditions critiques publient les œuvres d'un côté, les fragments posthumes de l'autre côté, l'appareil critique dans un autre volume, les lettres à Nietzsche dans un autre volume, les lettres de Nietzsche, etc. etc. Les lettres sur Nietzsche, la bibliothèque. Par contre, dans l'édition génétique que nous sommes en train de préparer, dont vous voyez maintenant le frontispice, nous utilisons la notion de dossier génétique. Un dossier génétique réunit tous les documents qui concernent un même projet d'écriture. Il rassemble les manuscrits préparatoires, y compris les manuscrits pour l'imprimeur, les épreuves et toutes les éditions imprimées par l'auteur. Quand il sera complet, il comprendra également les lettres contenant des instructions à l'éditeur ou des témoignages sur l'avancement du travail d'écriture. Et en plus, les livres que l'auteur a consultés ou annotés pendant l'écriture de l'ouvrage. Les projets d'écriture peuvent correspondre à l'ouvrage achevé et publié, comme dans ce cas, ou alors peuvent correspondre à un projet d'écriture inachevé, qui n'est pas arrivé à publication. Et donc, l'édition génétique des œuvres complètes d'un auteur sera ainsi formée par une suite des dossiers génétiques. Une même note peut bien sûr appartenir à un ou plusieurs dossiers génétiques. Cela ne pose absolument aucun problème dans le contexte d'une édition électronique, comme vous imaginez. Et en même temps, les notes qui ne rentrent pas dans un projet d'écriture restent accessibles par ordre topologique ou chronologique, car l'édition génétique donne de toute façon la reproduction complète en facsimilé et en transcription de tous les documents qui composent les dossiers génétiques. Alors, vous reconnaissez ici dans ces dossiers génétiques les 6 étapes de la genèse. Vous avez donc les six carnets que Nietzsche utilisait dans ses promenades, les 2 cahiers et les feuilles volants, le manuscrit pour l'imprimeur, les épreuves et l'œuvre imprimée. Ces mêmes dossiers génétiques peuvent également être visualisés sous forme des diagrammes, ce qui vous donne déjà une idée de la dynamique de la création et des mouvements macroscopiques de la genèse. Par exemple, dans ces diagrammes, vous pouvez déjà voir que 45 notes du cahier M4-1 sont transcrites dans les cahiers M1-3. Mais aucune note, par exemple, est transcrite dans l'autre cahier, celui en bas, qui est par contre alimenté par les carnets N4-2. Donc ça vous donne déjà une idée de la dynamique de l'écriture. Ou alors, de la macrogénèse, nous pouvons passer à la microgénèse. Et vous pouvez visualiser les dossiers génétiques sous forme des tables de classement génétique où vous voyez l'histoire génétique de chaque aphorisme de Nietzsche. Donc, vous voyez, chaque ligne représente une suite de sigles. Chaque sigle correspond à une unité textuelle. Et chaque ligne raconte l'histoire, nous le verrons tout à l'heure, de la composition d'un aphorisme de Nietzsche. Donc, vous avez 350 microgénèses qui correspondent de chacune à un aphorisme de Nietzsche. On le verra tout à l'heure. Voyons maintenant la deuxième différence. On a dit la question de l'établissement du texte. Les éditions critiques établissent un texte critique en considérant toutes les variantes qui se trouvent dans les manuscrits et en considérant justement les textes publiés par Nietzsche. Par contre, l'édition génétique transcrit tous les textes, tous les calepins en transcription linéarisée et diplomatique. Là, vous voyez la transcription diplomatique. Tous les cahiers, il transcrit les manuscrits pour l'impression, que personne n'a jamais transcrit et publié, et qui est riche, par contre, de toute une série de variantes, de modifications. Nous transcrivons même les épreuves avec leurs corrections, qui représentent les dernières étapes de la Genèse. Et puis, en utilisant une observation de Cesare Sega, nous ne transcrivons pas uniquement le texte, les différentes versions du texte qui se trouvent sur deux feuilles différentes, mais nous transcrivons aussi les différentes versions du texte qui se trouvent sur la même feuille. Cesare Sega écrivait qu'à la rigueur, on pourrait affirmer que dans un texte avec des corrections, nous sommes également en présence, en termes linguistiques, des textes successifs superposés dans le même espace et définissables par abstraction comme des couches successives. Je vous donne un exemple. Prenons un aphorisme de Nietzsche de quelques lignes. Nietzsche écrit d'abord « Les pins semblent écouter, les sapins semblent attendre, et tous les deux sans impatience. Ils ne pensent pas à ces petits hommes à leurs pieds. » Et puis, il ajoute, ça c'est la première couche. En allemand, on les appelle Schreibstufe, hein, couche d'écriture. Ça c'est la première. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute, vous voyez, je l'ai mis en rouge, il ajoute quelques mots à la fin. Il ne pense pas à ces petits hommes à leurs pieds, il ajoute, dévoré par son impatience. Et après, finalement, il modifie encore la fin et il ajoute le titre de l'aphorisme. Vous le voyez, je l'ai indiqué en vert. Pardon. Je voulais vous donner la traduction française, mais je ne l'ai pas, je vous l'ai dit. Donc le titre est « Les patients » et à la fin, il a ajouté « Il ne pense pas à ces petits hommes à leurs pieds qui dévore son impatience et sa curiosité. » Vous voyez, des petites modifications, mais vous pouvez aisément voir qu'il existe trois versions de cet aphorisme. Comment les publier? Au lieu de les transcrire manuellement, nous pouvons encoder ces textes en utilisant les langages d'encodage génétique que j'ai conçu en 2003 sous le premier nom de Hyper Nietzsche Markup Language. C'était un jeu de mots sur HNML au lieu de HTML. Dans le cadre du projet précédent qui s'appelait Hyper Nietzsche, maintenant nous avons changé à Nietzsche Source. Et si vous avez des curiosités techniques, je peux vous en parler tout à l'heure. Et si vous utilisez ces langages d'encodage génétique, ces langages disposent d'une balise très simple qui s'appelle Layer, Strat, et il suffit d'appliquer cette balise pour produire automatiquement 6 transcriptions de ce texte. 3 transcriptions diplomatiques des 3 couches de texte, et vous pouvez aussi utiliser les couleurs pour faire voir la différence entre les différentes versions, et puis 3 transcriptions linéarisées de ce même texte qui correspondent aux 3 couches d'écriture, et là aussi vous pouvez utiliser les couleurs pour faire voir les différences. Et tout cela, vous savez, les ordinateurs sont stupides mais rapides. Une fois que vous avez encodé une fois, ils peuvent vous produire cela immédiatement. Petite curiosité, nous avons aussi mis à point d'autres modalités de transcription. Par exemple, les transcriptions ultra-diplomatiques, nous les appelons. C'est-à-dire celles qui essayent de reproduire l'impression que la page donne, la page manuscrite donne, la reproduire à un caractère d'imprimerie. Parce que, par exemple, si vous avez une page de ce type-là, la transcription linéarisée vous donne le texte, mais vous donne pas l'idée de ce qui se passe dans cette page. La transcription diplomatique, effectivement, ça vous donne l'impression de certaines complications, mais c'est difficile à lire, peut-être plus que les manuscrits. Et la transcription ultra-diplomatique, par contre, peut permettre, dans certains cas, de rester plus fidèle au manuscrit. Nous avons aussi mis à point des techniques plus amusantes de transcription interactive. Et vous pouvez, dans ce cas, lire les manuscrits, tout simplement. Et puis, quand vous ne savez pas transcrire un mot, vous prenez la loupe, et voilà. Vous découvrez, sous les manuscrits, la transcription qui a été donnée. Et pour certaines pages, nous ne les faisons pas pour toutes les pages, mais pour certaines pages, là, ce n'était pas un cas pas très intéressant, parce que c'était bien écrit, mais pour certaines pages, ça peut être intéressant. Le parcours génétique. Troisième différence entre l'édition génétique et l'édition critique traditionnelle. L'ordre des unités textuelles. Nous avons dit que l'édition critique s'efforce de disposer les textes dans l'ordre chronologique. Les lecteurs de notre édition génétique, par contre, peut choisir de feuilleter les textes indifféremment dans l'ordre chronologique ou topologique, mais en plus, il peut suivre les relations génétiques entre les unités textuelles. En effet, chaque unité textuelle est systématiquement liée à ses états génétiques précédents et suivants. Et le lecteur peut accéder à tout moment au parcours génétique complet, feuilleter les facsimilés et la transcription de chaque étape et suivre ainsi l'évolution de l'écriture. Je vous donne un exemple. Prenons une unité textuelle que Nietzsche a écrite sur une page de son Kalpa. Voilà. 2 lignes. Vous voulez suivre, vous voulez savoir ce que cette note est devenue. Et alors, vous voyez là, en bas, vous avez le parcours génétique avec ses étapes. Il suffit de cliquer sur la deuxième étape et vous voyez la première réécriture de cette note. La deuxième réécriture dans un autre. Pour la première réécriture, c'était dans un calepin. Maintenant, Nietzsche passe à la copie honnête dans un cahier. Puis, vous avez les manuscrits pour l'impression. Et dans le cas du manuscrit pour l'impression, vous notez un phénomène intéressant, l'extension. Nietzsche procède par expansion. Et les deux lignes deviennent quand même quelque chose de plus étendu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Nietzsche est en train de fusionner 2 notes qui venaient, c'est-à-dire de fusionner cette note avec une autre note qui venait dans un autre parcours. Et vous les voyez en bas, vous avez 2 parcours maintenant. Et vous pouvez activer aussi un diagramme qui vous montre les deux parcours et leur intersection au niveau du manuscrit pour l'impression. Vous voyez, il y a un premier parcours qui est celui que nous étions en train de suivre, et puis un deuxième parcours qui s'insère dans cette dynamique et qui augmente l'extension de la note originaire. Puis, sans surprise, vous avez les épreuves et finalement la version imprimée. Voilà ce que c'est qu'un parcours génétique dans ces modèles d'édition génétique. Je voudrais encore ouvrir une autre parenthèse concernant la téléologie. On dit souvent que la critique génétique n'est pas et ne doit pas être téléologique. Mais cela est faux. Vous l'avez vu tout à l'heure. La critique génétique est et ne peut qu'être téléologique. Car pour construire un dossier génétique ou même un simple schéma génétique, il n'y a pas d'autre possibilité que d'utiliser un principe téléologique, c'est-à-dire d'utiliser tous les documents dans lesquels se manifeste clairement le but de produire un ouvrage déterminé ou de publier un tel aphorisme. Cette démarche, cependant, ne doit pas être confondue avec une téléologie axiologique, selon laquelle les versions successives seraient toujours meilleures que les précédentes. C'est cette téléologie axiologique que la génétique refuse. Certes, dans certains cas, on peut dire a posteriori, après analyse, que la valeur littéraire ou philosophique augmente à fur et à mesure du développement d'un texte. Mais ce n'est qu'une des interprétations possibles. Dans d'autres cas, on pourrait arriver à la conclusion inverse, c'est-à-dire observer, toujours de manière argumentée et documentée en se basant sur les textes et les manuscrits, que l'auteur finalement aurait pu développer son premier jet de manière plus esthétiquement ou philosophiquement intéressante. Toutes ces possibilités d'interprétation sont ouvertes, et c'est là que réside la force de la critique génétique. Parenthèse fermée, mais je voudrais savoir si je dispose encore de quelques minutes. Je pense que quelques minutes, parce que à travers la théologie, je voudrais quand même faire une transition vers le niveau interprétatif et vous laisser avec une réflexion sur ce qui signifie, après avoir montré ce que signifie éditer un corpus de manière génétique, je voudrais vous donner quelques réflexions sur ce qui signifie interpréter des manuscrits des philosophes d'un point de vue génétique. Ce que j'appelle la génétique philosophique. La génétique philosophique a des précédents illustres et aussi des illustres adversaires. Prenons l'exemple de Werner Jaeger, qui au début du siècle dernier a reconstruit pour la première fois la genèse et la progressive modification de la pensée d'Aristote par un processus d'éloignement du platonisme. Selon Jaeger, cette vision a tardé à s'imposer à cause de l'héritage scolastique qui voyait dans l'œuvre d'Aristote un schématisme rigide des concepts, un système immuable. L'œuvre de Leibniz aussi a souvent été présentée du point de vue de la reconstruction systématique d'un ensemble doctrinal unitaire. Vous savez que l'œuvre de Leibniz est accessible grande partie à travers ses manuscrits, hein, parce que la partie publiée par l'auteur est inférieure par rapport aux manuscrits. Et donc les interprètes se sont dit il faut reconstruire le système de Leibniz, qui est un système formulé une fois pour toutes dans les premières années de la maturité de l'auteur et qui est resté inchangé jusqu'à la fin de sa vie, comme Athéna qui jaillit toute armée du crâne de Zeus. Cette méthode d'Athéna, selon la formule d'Hector Neri Castaneda, est une expression extrême de la thèse structuraliste d'une synchronie complément détemporalisée, de sorte que l'on peut citer n'importe quel passage de n'importe quel écrit, publié ou posthume, pour appuyer l'interprétation de n'importe quel autre passage, de n'importe quel autre écrit de l'auteur. Désormais, la méthode génétique est bien ancrée chez les spécialistes de Leibniz. Je vous invite à lire la préface de Michel Fichamp à l'ouvrage « Science et métaphysique » dans Descartes de Leibniz, qui fait jouer l'archive contre les systèmes, la genèse contre les structuralismes. Michel Fichamp a montré, avec l'ensemble des œuvres, de son œuvre, combien la méthode génétique peut être fructueuse pour interpréter la philosophie de Leibniz. En revanche, les interprètes qui appliquent la méthode Athéna arrivent souvent à la conclusion que l'œuvre de certains auteurs est pleine de contradictions et d'éléments qui sont complètement incompatibles les uns avec les autres. Cela a été souvent le cas de Nietzsche, accusé de dire tout et le contraire de tout, ou loué, par contre, pour avoir inventé une théorie dite transcendante de la contradiction, dont fantasmait Jean Granier dans un livre malheureusement encore célèbre en France. L'utilisation de la notion de phase, comme l'avait déjà fait Jäger, est sûrement méthodologiquement plus appropriée pour rendre compte de l'évolution de la pensée d'un auteur. Charles Adler l'avait fait, par exemple, pour ce qui concerne l'interprétation de Nietzsche, qui avait divisé en plusieurs phases. Mais, après une analyse plus approfondie, cette notion se révèle elle aussi insuffisante, car dans la plupart des cas, les thèmes traités par un auteur n'échangent pas tous ensemble au même moment, ce qui justifierait l'idée de phase. Parce qu'on aurait la phase bleue, comme Picasso, la phase verte, et tous les thèmes devraient changer miraculeusement au même moment. Pour essayer de ne pas perdre de vue l'unité en devenir de la pensée d'un auteur et en même temps pouvoir isoler certains thèmes pour mieux les étudier, nous avons besoin d'instruments théoriques plus sophistiqués que ceux qu'est système ou de phase. L'étude de la philosophie de Nietzsche avec son rythme des changements très rapide m'a donné l'occasion de réfléchir sur ces points. Il faut pouvoir isoler un thème et suivre la genèse scripturale dans les manuscrits, reconstruire éventuellement sa filiation en s'appuyant sur l'analyse de la bibliothèque et des lectures du philosophe et suivre l'histoire de ces changements et de sa façon de se combiner avec d'autres thèmes. Pour cela, la notion des parcours, des schémas, me semble un instrument heuristique plus approprié, car il permet de disposer les uns après les autres tous les passages textuels, publiés ou inédits, qui s'en servent dans une ligne thématique déterminée et de les étudier dans leur évolution et dans leur rapport avec d'autres schémas. On pourrait parler des schémas thématiques, ou alors utiliser dans ces cas aussi la notion de schéma génétique, à faire référence cette fois-ci, non pas à la genèse textuelle, mais à une genèse conceptuelle, la genèse des concepts, que nous avons déjà utilisé d'ailleurs dans les études de linguistique. À l'ITEL, l'équipe linguistique travaille justement sur la genèse de certains concepts chez Saussure ou Benveniste. La notion des schémas atteint elle aussi ses limites, toutefois, quand il s'agit d'interpréter des textes qui ne font pas partie d'un ensemble thématique développé et qui restent donc isolés. C'est pour cette raison que la notion des consonances verticales devient l'indispensable complément de celle de schéma génétique. Les consonances verticales ne sont pas des systèmes, même limités à une période, ni des phases, car elles ne présupposent pas nécessairement une construction organique des différents thèmes et des différentes notes isolées qui se superposent et s'entremêlent les unes avec les autres à un moment donné de l'évolution de la pensée d'un auteur. Sans donc nous obliger à imposer une construction systématique ou organique, l'étude des consonances verticales nous invite à associer l'harmonie au contrepoint et à prendre en compte les effets des sens produits par la coexistence des différentes lignes thématiques. Aussi, loin d'être un monolithe statique ou alors une succession de césures abruptes, l'évolution de la philosophie d'un auteur prend la forme d'une métamorphose progressive dans laquelle on assiste à un mouvement lent et progressif des formes, des contenus, des structures ou des nouvelles configurations sont atteintes par des transformations imperceptibles qui, à un certain point, changent les couleurs de l'ensemble. Sans perdre toutefois l'unité de cette pensée, qui est cette ère des familles qui exprime les caractères unités de toute philosophie et qui résiste et existe malgré les dépassements continus d'elle-même. Ainsi, la génétique philosophique est capable de suivre, documenter et interpréter les métamorphoses de la pensée philosophique. Dans ce sens, la génétique philosophique n'a pas seulement une valeur heuristique, mais également une valeur pédagogique. En allant au-delà du commentaire traditionnel, la reconstruction des étapes de la genèse permet d'assister à l'avènement d'une pensée et aussi de poser à chaque étape la question « Que serait-il arrivé si on avait pris ici une autre direction ?» Ainsi, suivant des sentiers qui bifurquent, on peut être tenté de s'engager dans une direction que l'auteur n'avait fait qu'indiquer. Cela a comme effet de mettre en mouvement notre propre capacité de jugement. Elle peut donc être considérée comme une forme de propédeutique à une pensée autonome, comme une sorte de ars philosophandi. Sans compter que la manière dont les philosophes ont pensé est souvent plus importante que les résultats de leur effort. Jusqu'à présent, on avait cherché la méthode des philosophes exclusivement dans leurs discours. Il est temps de la chercher également dans leur manière de les écrire et de penser en les écrivant. Je vous remercie pour la patience.
Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes. C'est impressionnant, bibliothèque. Je vous propose d'ouvrir le débat après l'ensemble des interventions. Alors, passons la parole à Jean-Sébastien Mac. Nous avons quelques réglages techniques à faire. Vous voulez quel outil?